Bonjour et bienvenue, merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. En direct avec dans un instant le duel et le retour sur l'actualité de la semaine. Avant le débat du samedi, qu'est-ce que la crise du coronavirus fait à nos démocraties? Et si c'était l'occasion d'imposer un nouveau régime politique, un état d'exception derrière lequel il faudrait voir la victoire du néolibéralisme et des conséquences qui dépassent très largement la gestion de la crise sanitaire, qui vont même jusqu'à la manière d'enseigner, à ce qu'il se joue dans les universités, avec les étudiants, dans notre rapport au savoir et même à la science. J'ouvre les guillemets, nous ne vivons pas une pandémie, nous vivons bel et bien en revanche en pandémie. Puisque ce n'est pas le terme adéquat pour décrire le mode de manifestation du virus, nous proposons que ce mot, ou plutôt ce nom, désigne avec une majuscule un nouveau continent mental, parti de l'Asie pour recouvrir l'Europe, puis pour s'imposer finalement en Amérique. Un continent aux contours flous et évolutifs, mais qui risque de durer des années et pourquoi pas des siècles et des siècles. Fermez les guillemets. Constat sombre que fait la philosophe Barbara Stiegler. Elle publie « De la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation » dans la collection Tract de Gallimard. Et elle sera notre invitée dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour Natacha, heureux de vous retrouver. Et pour commencer le duel, c'était jeudi en fin de journée, à l'heure du confinement qui s'imposera à nous dès aujourd'hui à 18h.
La situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement. Mais si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité.
Nous préparer à toute éventualité, c'était le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse jeudi. Donc, pas de nouveau confinement, mais... Pas de nouveau confinement, mais c'est ce qu'il fallait retenir. En tout cas, on va rentrer dans le détail des mesures, Gilles Finkelstein. Mais au fond, c'était l'appréhension, quelque chose qui était dans la conversation générale, comme disent les Américains, la crainte du retour d'un confinement imposé à l'ensemble de la population.
Oui, je crois qu'on est dans la situation dans laquelle on s'attendait, à laquelle on s'attendait un peu, c'est-à-dire une espèce d'entre-deux où la situation évolue moins défavorablement que chez nos voisins européens, mais où elle reste à un palier élevé et que, on attend un peu de voir comment les choses vont se passer, ce qui rend d'autant plus urgent et d'autant plus importante la question de la vaccination.
Bien sûr, et on va en parler. Natacha Polony.
Oui, je pense que là, nous avons bien compris qu'une fois de plus, nous sommes face à une conférence de presse de transition. C'est-à-dire qu'il s'agit à la fois, et de façon raisonnable de la part du gouvernement, je pense, d'éviter un reconfinement total dans la mesure où on a bien compris les dégâts absolus que cela fait, que ce soit d'ailleurs en matière psychologique, psychiatrique et en matière économique, mais en fait les deux sont liés et heureusement on s'en aperçoit petit à petit, c'est-à-dire que la souffrance économique et sociale entraîne de la souffrance psychique. Donc il y a cette tentative de ne pas passer au confinement, mais avec tout de même la préparation psychologique, puisque a été distillée durant cette conférence de presse, petit à petit, l'idée que le confinement était quasiment inéluctable à travers différents éléments de langage, à travers l'idée des mutations qui circulaient. Et donc, nous sommes dans cette phase d'entre-deux, profondément, je pense, déstabilisante pour beaucoup de citoyens, qui est cette idée que on a tendance à penser que l'inéluctable, en fait, est déjà acté, même si on ne nous le dit pas.
Gilles, les mesures annoncées par le Premier ministre Jean Castex, on parle évidemment de ce couvre-feu vespéral généralisé aujourd'hui sur l'ensemble du territoire et pour au moins 15 jours. Il a présenté également des contrôles aux frontières renforcés, un certain nombre de dispositifs à destination notamment des étudiants et des universités pour desserrer les taux dans lesquels est prise la communauté éducative. On est dans une situation maîtrisée mais fragile en France. Comment expliquer cet entre-deux que décrivait Natacha très justement, alors même que maintenant on a l'espoir du vaccin. Et on va en parler tout à l'heure avec Barbara Stiegler, mais on est dans une phase qu'on aurait pu imaginer être celle de l'espoir, celle d'un début de sortie de crise, et on en est pourtant loin.
Mais parce que il y a les deux situations en même temps, c'est-à-dire qu'il y a à la fois la crainte parce que partout il y a une reprise de l'épidémie, et puis l'espoir parce que la campagne de vaccination vient de commencer. Et je crois que ce que ça veut dire, c'est que l'urgence, c'est la vaccination, c'est de réussir la campagne de vaccination, réussir sur le plan logistique, mais réussir aussi en comprenant ce qu'est l'état d'esprit des Français sur ce sujet-là. Et on l'avait évoqué la semaine dernière, je crois qu'il y a eu des erreurs psychologiques qui ont été commises par le gouvernement en se concentrant à l'excès sur ce qu'on appelle les anti-vaccins.
Oui.
Et c'est pas une question simplement d'analyse de l'état de l'opinion, c'est une question qui a des conséquences, et qui a des conséquences concrètes, qui a des conséquences demain, des conséquences collectives, parce qu'il faut atteindre l'immunité de groupe, des conséquences peut-être individuelles, parce que il est difficile de savoir s'il y aura, soit à l'intérieur du pays, soit davantage encore à l'extérieur du pays, un passeport sanitaire, c'est-à-dire s'il faudra avoir été vacciné pour pouvoir voyager.
On s'y approche, on s'en approche.
On s'en approche, c'est probable, ce n'est pas encore fait, mais c'est probable, ça veut dire donc que cette question va avoir des conséquences, et des conséquences concrètes, et que je crois qu'on s'y emploie d'ailleurs dans cette émission, il faut essayer de développer une culture de l'opinion. Une culture de l'opinion, ça veut dire pas seulement donner un chiffre, mais ça veut dire être capable d'interpréter un sondage, c'est-à-dire de comprendre une question, de ne pas se limiter au sondage, d'être capable de regarder ce qu'il y a de beaucoup plus gros dans les enquêtes, le big data, de regarder du beaucoup plus petit, c'est-à-dire des entretiens individuels, bref,
ça, c'est
de
votre
comprendre
métier.
Vraiment
ce
qu'est l'état de l'opinion.
Et je vais donner la parole à Natacha, Gilles, mais d'un mot quand même, comment expliquer qu'est-ce qui a fait que l'opinion a évolué, en l'occurrence, avant les fêtes, une majorité de Français n'était pas prête à se faire vacciner. Pour la première fois cette semaine, c'est une grosse moitié de Français qui dit qu'elle est prête à se faire vacciner contre le Covid. 56% des Français disent ne pas y être réfractaires, ou en tout cas être prêts à tendre leur épaule ou leurs fesses à un médecin pour qu'il plante une aiguille.
Il y a une singularité française. Il y a une singularité française, il y a même une double singularité française. Il y en a une qui est attendue, c'est celle dont on parle depuis longtemps, le fait que la réticence à la vaccination est plus forte chez nous qu'ailleurs, et parfois dans des proportions très importantes. Il y a 40 points d'écart avec le Royaume-Uni, par exemple. Il y a une deuxième singularité française qui est beaucoup moins attendue et dont on a beaucoup moins parlé. C'est que l'opposition de principe au vaccin est plus faible chez nous que dans les autres pays. Pas de beaucoup,
ah bon,
mais c'est le sondage qui a été fait dans 15 pays par Ipsos. On est un peu en dessous de la plupart des autres pays. Donc, il y a cette double singularité. Et c'est très important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut être tenté, on regarde un chiffre, combien de Français disent « je ne veux pas être vacciné ». Mais il faut regarder pas ce chiffre-là. Il faut regarder pourquoi ils ne veulent pas être vaccinés. Et on voit qu'il y a anti-vaccins et anti-vaccins. Il y a des anti-vaccins de principe. C'est une part contenue, c'est pas rien, hein, c'est près de 20% de la population, un peu plus chez les jeunes, mais il y a les autres qui sont des hésitants. Et c'est l'évolution de ces hésitants qui donne les chiffres que vous venez d'évoquer. Et pourquoi ils deviennent plus favorables? Parce que les craintes qu'ils avaient sur les effets secondaires principalement, eh ben, au fur et à mesure que la vaccination en France et dans le monde se déploie, eh ben, ils constatent que ces craintes ne sont pas fondées. Et donc, je conclue d'un mot, ça veut dire que pour réussir la vaccination, il faut vacciner. Plus on vaccine et plus on lève les réticences, plus cela devient la norme et plus on convainc les hésitants.
Natacha Polony, avant de passer au prochain sujet.
Rapidement, deux points. Le premier, sur ce que vient de dire Gilles, nous en avons déjà parlé ici, mais je pense qu'il faut y insister. Il y a un problème actuellement, et je pense que nous l'aborderons aussi avec Barbara Stiegler, un problème politique qui est la criminalisation des opinions divergentes et notamment de ce qu'on pourrait appeler le doute raisonnable. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette histoire d'interprétation sur la position des Français sur le vaccin, c'est-à-dire qu'on a assimilé ceux qui émettaient un doute raisonnable, un doute critique qui est le fondement même de la démocratie, du politique, on les a assimilés à ceux qui, au contraire, avaient une réticence souvent irrationnelle contre les vaccins, accusés de tous les maux. Mmh. Et parce que les opinions divergentes n'étaient pas acceptables, on a voulu absolument, quasiment, transformer cela en un débat religieux du bien contre le bien étant de se faire vacciner. Et je pense que c'est pour ça que le gouvernement a commis cette erreur d'analyse qui a sans doute ralenti le début de la campagne de vaccination. Alors, deuxième élément qui est important, c'est que là, nous allons avoir ce qui, pour l'instant, n'était pas en jeu, à savoir un risque de pénurie dans l'arrivage des doses de vaccins, parce que il y a une usine en Europe qui produit les doses de Pfizer, qui est en Belgique, l'usine de Puurs, qui va être en travaux pour mettre en place une accélération de production, et donc pendant ces travaux, il y aura ralentissement, alors même qu'il n'y aura pas de ralentissement de la production aux États-Unis ou ailleurs. Et on voit très bien dans ces deux éléments que je viens de citer, les deux choses qui ressortent de tout ce que nous avons vécu depuis quasiment un an, à savoir le constat d'une faiblesse européenne et notamment française due à la désindustrialisation et donc à une forme de dépendance aux aléas, aux pays qui, eux, n'ont pas renoncé à la production industrielle, etc. Et une incapacité des gouvernants, souvent, à comprendre ce qu'est la démocratie et en particulier cette dimension du doute raisonnable qui est nécessaire en démocratie.
Le duel continue sur France Inter.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Je ne souhaite pas que du sang européen soit versé, en plus du sang français qui a déjà été versé. Tout doit être fait pour limiter ce risque. Mais vous savez que la guerre, c'est emporte aussi cette dimension tragique qui est que les soldats, nos soldats, sont prêts à l'engagement ultime.
C'était Florence Parly, la ministre des Armées. Elle était l'invitée de Questions politiques dimanche dernier sur France Inter. La guerre emporte cette dimension tragique qui est que les soldats sont prêts à l'engagement ultime, disait-elle à notre micro. La France doit-elle rappeler ses soldats de l'opération Barkhane qui sont déployés au Sahel sur une zone grande comme l'Europe, 5000 hommes qui luttent contre les différents groupes djihadistes. La question se fait de plus en plus pressante et notamment depuis que la France a perdu 5 de ses soldats en quelques jours et au cours des dernières semaines. Comment sortir d'une guerre qui n'en finit pas et faut-il finalement y mettre fin à ce conflit qui ne dit pas son nom, Natacha Polony?
Mais je pense en effet que la question des fins d'une opération de ce style doit être pensée largement en amont et que c'est une erreur majeure. C'est-à-dire que dès le départ, il était légitime que la France intervienne en 2013. En revanche, quand l'opération a été étendue et dès à partir de 2014, en fait, il aurait fallu penser la fin de cette opération dans la mesure où ce genre d'opération ne peut fonctionner que quand elle est temporaire. Et il nous arrive exactement ce qui est arrivé aux États-Unis en Afghanistan, parce que la fin n'a pas été pensée, nous embourbons. Et il est tragique de se dire que des soldats peuvent désormais penser qu'ils risquent leur vie pour rien. Deuxième point essentiel,
pour rien.
Ben, c'est le risque. Quand des soldats se mettent à dire cela, je pense que c'est catastrophique pour leur engagement, pour leur rapport à la nation. Mais surtout, on a vu le soupçon de bavure le 3 janvier dans un petit village à Bounti qui frappe l'armée française et qui risque une fois de plus de détacher l'armée des populations locales. On sait que le gouvernement malien...
Il faut rappeler juste d'un mot que des villageois dans cette zone qui est à la frontière du Burkina Faso accusent un hélicoptère, était-il français, était-il malien, d'avoir tiré et tué des civils au cours de noces qui avaient lieu ce jour-là. Florence Parly a vigoureusement démenti que c'était une frappe d'un hélicoptère français. C'était juste pour refermer la parenthèse.
Oui, je termine rapidement. On sait que le gouvernement malien s'est mis à négocier avec certains groupes djihadistes, sachant que sur le terrain, en fait, on a des groupes djihadistes concurrents, ceux affiliés à Al-Qaïda, ceux affiliés à l'État islamiste, et qu'on se retrouve dans une situation où la France est un peu en porte-à-faux. Jusqu'à présent, elle s'opposait même officieusement à ces négociations, et désormais, officiellement, elle les récuse, officieusement, la France prend acte que le gouvernement malien est dans une forme de négociations sur le terrain pour apaiser. Bref, que reste-t-il de la légitimité de la France à être là? Je pense qu'il aurait fallu, ça fait déjà plusieurs mois que cette question aurait dû être posée de façon lucide.
Gilles Finkelstein.
Il y a une singularité française dans les opérations extérieures, une forme d'agilité parce que on peut y aller avec des décisions qui sont plus rapides et plus, parce que plus solitaires que dans d'autres pays. C'est comme ça que la France s'est engagée et c'est grâce à la décision de François Hollande. C'est grâce à la décision de François Hollande qu'on a pu contenir la progression terroriste dans cette zone.
Lorsque les djihadistes fonçaient vers Bamako, la capitale du Mali.
Après, on a, Natacha l'a bien dit, les mêmes difficultés que tous les autres pays. C'est comment, le problème n'est pas seulement d'y aller, c'est comment en sortir. C'est un problème qui est posé tout le temps et c'est un problème qui est posé aujourd'hui pour nous. Et je crois qu'il est nécessaire de quitter le Mali. Il y a des progrès...
Il est nécessaire de quitter le Mali.
Attendez, je vais aller jusqu'au bout. Il y a eu des progrès militaires, y compris récents. Hein. On a abattu des chefs djihadistes, on a désorganisé de manière profonde la logistique des groupes terroristes, mais il y a un risque d'enlisement, ça va bientôt faire 7 ans que la France est là-bas, et il y a un risque d'enchaînement, c'est ce que vient d'évoquer à l'instant Natacha. Donc la question, pour moi, n'est pas de savoir si la France doit quitter le Mali, mais quand et comment. Il peut y avoir la tentation d'un départ surprise. Bien sûr. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que les troupes maliennes sont suffisamment formées pour que tous les efforts qui ont été engagés n'aient pas été vains? Est-ce que surtout c'est la bonne méthode? La France n'est pas seule au Mali, contrairement à ce que l'on dit souvent. On a réussi à embarquer avec nous un certain nombre d'autres pays européens, à réussir à convaincre des Danois, des Suédois, des Estoniens, des Tchèques que ce qui se passait au Mali, c'était important pour eux. Et pas seulement à s'y engager en termes de développement, comme le font les Allemands, mais y compris dans ce que les militaires appellent l'engagement cinétique, c'est-à-dire aller au combat.
Avec des troupes spéciales et dans certains groupes organisés en alliance et en alliance avec les troupes françaises.
Bon, donc quand on est
parle de quelques dizaines, quelques centaines de soldats européens.
Certes, mais symboliquement c'est très important et donc quand on est dans cette situation, le décider sans eux, je pense que c'est une mauvaise méthode. Donc pas de départ surprise. Est-ce qu'on peut faire un départ programmé? C'est peut-être un peu ce que implicitement disait Natacha et là aussi je suis très interrogatif. On peut avoir un espoir quand on fixe une date, c'est l'espoir que les choses bougent enfin, notamment du côté malien. Le risque, c'est que les terroristes se disent « on va tranquillement attendre que les troupes françaises partent pour pouvoir intervenir à nouveau ». Et la certitude, c'est qu'on perd tout levier de négociation dans les négociations que vient d'évoquer Natacha à l'instant, si on annonce déjà qu'à l'avance, quand on va se retirer, c'est un peu ce qui est arrivé pour les Américains. Conclusion de tout ça, je crois qu'il faut préparer un départ. Ça veut dire continuer à travailler avec les Maliens, à construire un État, à développer leur pays, en sachant que c'est un travail de très long terme, pas seulement pour un problème de corruption, parce qu'il y a des problèmes de compétences, pas seulement parce qu'on manque de volonté, mais parce que, tout simplement, c'est un désert et que c'est difficile de développer un désert. Et enfin, il faut sans doute mettre fin à l'opération Barkhane telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la reconfigurer. Peut-être un peu moins d'hommes, peut-être un peu plus de formation, peut-être un peu moins de présence continue, peut-être un peu plus d'à-coups dans la lutte contre le terrorisme, peut-être symboliquement un changement de nom. C'est ces questions-là qui vont être posées dans les prochaines semaines, puisque au mois de février prochain, il y a un sommet à N'Djamena où le président de la République annoncera ce qu'est la position de la France et l'évolution de son intervention.
Un nouveau G5 Sahel avec la Mauritanie, le Mali, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger, les pays donc qui sont concernés par l'opération Barkhane. D'un mot, Natacha, puisque vous en parliez, faut-il ou faudra-t-il se résoudre à négocier, discuter avec les djihadistes exclus officiellement aujourd'hui par les autorités françaises, mais c'était aussi exclu et impensable pour les Américains de discuter avec les talibans en Afghanistan et ils ont fini par s'y résoudre.
Très simplement, je crois qu'en ce genre de matière, il faut s'interdire tout dogmatisme et qu'il faut faire preuve de réalisme, d'autant plus qu'il n'y a rien de simple dans ce qu'on pourrait appeler un groupe djihadiste. Qu'est-ce qu'on définit exactement comme groupes djihadistes et quels sont leurs appuis sur le terrain et quelles sont leurs alliances avec les uns et les autres. On sait bien que tout cela est flou, c'est pour ça que je soulignais en fait les guerres de domination qui opposent ces groupes entre eux et qui sont là aussi un élément qu'il faut prendre en compte pour essayer tout simplement d'être de jouer les uns contre les autres, de regarder lesquels sont fréquentables, lesquels ne le sont pas, lesquels peuvent être éventuellement contenus. C'est tout cela qu'il va falloir décider parce que de toute façon, la situation, si elle s'enlise telle qu'elle est, ne fera que nourrir le djihadisme.
D'un mot,
oui, d'une phrase, la sémantique va aider à ce pragmatisme. On va négocier avec des ennemis et on ne va pas négocier avec les terroristes.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Les Français n'en peuvent plus des promesses, ils veulent des résultats dans leur quotidien. La phrase est d'Amélie de Montchalin, la ministre d'Emmanuel Macron qui poursuivait la crise sanitaire ne sera pas un prétexte, une excuse à la relégation de nos engagements de 2017. Et je ferme les guillemets puisqu'on a l'impression qu'il faut maintenant présenter le bilan du quinquennat au moment où va démarrer ou a peut-être déjà commencé la campagne présidentielle de 2022. C'était mercredi, le gouvernement a mis en ligne, et c'est accessible à tous, le gouvernement a mis en ligne, Gilles, un baromètre pour mesurer le déploiement, on va dire ça comme ça, en tout cas l'état des lieux des réformes engagées depuis 2017. C'est un baromètre qui permet de voir l'avancement et les résultats concrets des 25 premières politiques prioritaires engagées par le ou les gouvernements d'Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé à l'Élysée. Pourquoi est-ce que c'est important, Gilles, de s'arrêter sur ce baromètre des résultats de l'action publique pour l'appeler par son nom ?
Écoutez, moi j'ai commencé à regarder cette proposition avec un certain intérêt. Et je suis arrivé à une déception
c'est
certaine.
Ce qui fait que vous êtes un personnage exceptionnel.
La France est un pays qui se caractérise par le fait que on considère que quand une loi est annoncée, elle est votée, et plus encore qu'elle est déjà mise en œuvre. Et un pays dans lequel on a très peu la culture de l'évaluation. Donc, je trouve que ce genre de choses peut être intéressant. J'ajoute que pour Emmanuel Macron, la crise du Covid crée une césure dans son quinquennat avec le risque que tout son bilan, après qu'on le juge positif ou négatif, son bilan soit effacé et que, on l'a vu à l'occasion de cette crise, il y ait une interrogation très forte sur la capacité de l'administration à mettre en œuvre. Et donc qu'il revienne à ce qui est en réalité une interrogation ancienne d'évaluation, c'est pas très étonnant. Pourquoi déception ? Et une déception en réalité assez profonde. Il y a le problème du moment. Quand est-ce qu'on fait ça ? D'une certaine manière, vous l'avez dit vous-même, c'est moins un baromètre de l'action publique qu'un bilan politique de l'action qui a été conduite par Emmanuel Macron à 500 jours de l'élection présidentielle.
En allant sur ce site.
Je pense que vous n'êtes pas le seul. Le deuxième problème, c'est qui évalue ? Le problème, c'est que c'est une évaluation du gouvernement par lui-même, même s'il faut reconnaître une certaine honnêteté au sens où toutes les mesures qui sont évaluées ne sont pas positives. Il y en a qui sont encore à leur balbutiement, mais malgré tout, c'est le gouvernement qui s'auto-évalue.
Ça peut être le boulot des parlementaires, normalement.
Ça pourrait être le rôle du parlementaire. Ça pourrait être le rôle
du gouvernement.
Ça pourrait être le rôle de mille et une autre structure que le gouvernement lui-même. En tout cas, ça jette un voile. Troisième interrogation, c'est sur le quoi. Qu'est-ce qui est évalué ? Et là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont déterminantes pour les Français qui ne sont pas dans ce baromètre et que, y compris sur les choix des critères, vous prenez par exemple la question du logement, question très importante, la question du nombre de logements sur lequel il y avait eu des engagements. Elle n'est pas évaluée. La question de la mixité sociale, du nombre de logements sociaux, elle n'est pas évaluée. Et donc, il y a le choix des critères pose question. Et enfin, j'en termine par là, sur le comment on évalue. Très souvent, ce sont les moyens et pas les fins. Et donc, on finit
comment
par perdre le sens. Je vous en donne un exemple. Le dédoublement des classes de CP.
Oui.
Mesure à laquelle je suis favorable. Très bonne mesure.
Et mesure phare.
On dit 100% de dédoublement. Parfait. Mais la question, c'est ça, c'est un moyen. La question, c'est est-ce que ça, si on veut faire une évaluation, est-ce que ça a amélioré l'acquisition des connaissances pour les élèves ? C'est ça la question et c'est ça une vraie évaluation. On dit, on évalue le nombre de kilomètres de pistes de vélo. Très bien, mais ça encore, c'est un moyen. La question, c'est quel est le pourcentage de transport en mobilité douce réellement? Et donc, c'est cette confusion entre les moyens et les fins qui est trop souvent dans l'évaluation sur laquelle on ne se concentre pas sur l'essentiel.
Natacha Polony.
Bah écoutez, je rejoins totalement Gilles, c'est ce qui m'a frappé également. On pourrait ajouter aux quelques exemples qu'il vient de citer, la question de, par exemple, des actes de délinquance et faits de contestation de la laïcité, où là aussi, on compte le nombre de contrôles, mais on ne sait pas exactement en quoi ça a amélioré la situation. Donc on est en effet face à un État qui a l'air d'acter son impuissance, mais qui explique que ce n'est pas de sa faute parce qu'il a mis les moyens. Et je pense que c'est cela qui est problématique. Il s'agit de dire, regardez, nous avons réformé. Amélie de Montchalin l'a d'ailleurs martelé en expliquant, 2020 n'est pas une année blanche, nous avons agi, mais à aucun moment nous ne pouvons en tirer la conclusion que la vie des Français, l'état du pays s'est amélioré. Je pense que c'est surtout cela qui ressort, et du coup je ne suis pas sûre que ce soit une opération véritablement gagnante pour le gouvernement.
D'un mot avant d'accueillir notre invitée, la philosophe Barbara Stiegler, est-ce que ce n'est pas, et je me fais l'avocat de votre diable tous les deux, est-ce que ce n'est pas une manière pour le chef de l'État de dire qu'il est déterminé, et ce sont les éléments de langage présidentiel, à agir jusqu'au dernier jour du quinquennat, et qu'en l'occurrence, il veut, dans un an et demi, pouvoir présenter des résultats concrets aux Français? Est-ce qu'il faut voir ça comme ça, ou est-ce que quand on commence à faire le bilan, c'est qu'au fond, on a arrêté d'imaginer qu'on allait continuer à agir, Gilles?
Bon, je pense qu'il sait que les grandes réformes, si tant est qu'il y ait des grandes réformes, elles sont plutôt derrière lui que devant lui, en tout cas pour ce mandat. Et par ailleurs, je vois mal un gouvernement, quel qu'il soit, en France ou ailleurs, dire que il va arrêter d'agir dans les 18 mois qui viennent, qu'il ne va plus rien faire et que l'année ne sera pas une année utile. Donc ça, tous les gouvernements de tout temps, sur les derniers 18 mois, disent exactement la même chose.